reportage, Xavier Besson.
L'ancienne capitale royale du Laos, Luang Prabang, dans le nord du pays, qui a fêté au mois de décembre les 20 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un événement qui a totalement transformé une ville qui était quasiment oubliée jusqu'au début des années 1990. Aujourd'hui, l'afflux des touristes a beaucoup bénéficié économiquement à la ville, mais il a aussi provoqué d'importants changements sociaux. Et c'est le thème du grand reportage d'Arnaud Dubus à Luang Prabang.
Luang Prabang a quelque chose de magique. C'est peut-être dû à l'atmosphère tranquille de cette grosse bourgade prise entre le Mekong et le fleuve Nam Cam, où se mélangent envoûtants de bâtiments de l'ère coloniale, de maisons traditionnelles en bois et de temples bouddhiques au style unique dont les toits courbes semblent caresser le sol. La ville, ancienne capitale de la famille royale de Luang Prabang, est un joyau. C'est pour cela que l'UNESCO, en coopération avec les autorités laotiennes, a inscrit en 1995 Luang Prabang sur la liste du patrimoine mondial. Pour Bunkong Kutao, directeur adjoint du département du patrimoine mondial de Luang Prabang, l'opération a été globalement un succès.
Les conséquences bénéfiques de l'inscription de Luang Prabang au patrimoine de l'UNESCO, c'est d'abord le fait que ça a amélioré les conditions de vie de la population. Nous avons protégé ce patrimoine de manière à ce qu'il soit maintenant devenu célèbre. De nombreux touristes viennent à Luang Prabang, ce qui permet aux Laotiens qui vivent ici d'ouvrir des commerces, des hôtels, des magasins de souvenirs, des agences touristiques et des services de transport. Et c'est un bénéfice direct pour les habitants de Luang Prabang. Leur vie s'est nettement améliorée. La deuxième chose, c'est la préservation du patrimoine de la ville et son embellissement. Luang Prabang a pu être conservé dans son état d'origine.
D'autres villes de la région, comme Siem Reap au Cambodge, ont montré comment un développement touristique non contrôlé pouvait défigurer une belle cité. La tutelle de l'UNESCO a permis d'éviter de tels dérapages à Luang Prabang, un rare exemple en Asie d'un équilibre relativement réussi entre préservation et développement. C'est l'avis de Francis Engelmann, résident de longue date à Luang Prabang et auteur de nombreux livres sur le Laos.
On peut dire que 20 ans après, sans l'UNESCO, sans la présence de l'UNESCO, je pense que la ville ne serait pas dans l'état où elle est. Il y aurait probablement des constructions disgracieuses, probablement quelques hôtels de 5 ou 6 étages et peut-être beaucoup de démolitions de bâtiments anciens intéressants. La protection de l'architecture avec l'aide de l'UNESCO s'est faite de manière positive. Alors Luang Prabang, c'est un site urbain, c'est pas un monument vide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent, un tourisme qui se développe, donc c'est beaucoup plus compliqué à protéger qu'un monument isolé comme Angkor Wat, par exemple, qui lui aussi est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site est assez large, c'est pas tout à fait la région de Luang Prabang, mais c'est la ville, et puis les deux rives des deux rivières qui bordent le site historique. Donc on a aussi une partie naturelle qui est protégée, donc deux bandes vertes, deux écrans de verdure sur chaque rive de la Nam Can, et qui est l'affluent du Mekong, qui lui aussi de l'autre côté est protégé. Donc il y a là quelque chose de très très positif, c'est que la ville a gardé, on va dire, son atmosphère. Je pense que c'est ça, même s'il y a évidemment, comme partout, quelques écorchures mineures à la protection.
Oui, car tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes à Luang Prabang. En 1995, 50 000 touristes visitaient la ville par an. Ils sont aujourd'hui 400 000. Et ils viennent surtout durant la haute saison, entre octobre et mars, pendant la saison sèche. Un tel afflux de visiteurs dans une ville de taille relativement modeste a forcément des conséquences. D'autant que Luang Prabang a été assez isolé du monde entre la prise du pouvoir par les communistes en 1975 et les années 1990. Bunkong Kutao, le directeur adjoint du département du patrimoine, évoque certains aspects négatifs.
Si les touristes viennent en grand nombre, il y a des conséquences sur le mode de vie et les traditions des habitants de Luang Prabang, car certains touristes ne sont pas respectueux. Par exemple, dans certains temples, des touristes grimpent sur les statues de Bouddha ou entrent avec leurs chaussures dans les temples. Ces comportements sont des insultes à la culture laotienne. Autre exemple, la tournée des offrandes des bonzes le matin. Pour les gens de Luang Prabang, c'est une cérémonie sacrée. Cette cérémonie leur donne le sentiment de se purifier et de gagner des mérites en offrant de la nourriture aux bonzes. C'est une tradition qui tient beaucoup au cœur des Luang Prabanais. Les touristes veulent participer à cette cérémonie, mais parfois ils se parfument et se maquillent de manière outrancière, ce qui est contraire à l'esprit de la cérémonie.
Cinq heures trente du matin dans la rue principale de Luang Prabang. Les touristes se bousculent et jouent des coudes pour pouvoir mitrailler avec leur appareil photo les bonzes. Ceux-ci, en file indienne, viennent recueillir les offrandes des fidèles. Parmi ceux qui remplissent les bols à aumône des moines, de nombreux touristes amenés là par leur agence. Cette perturbation d'un moment religieux important pour les autochtones n'est qu'un des effets imprévus du développement touristique. Bun Mi, un Marseillais qui tient un restaurant à Luang Prabang et a écrit plusieurs livres sur le pays, s'inquiète de ce que le changement a été tout simplement trop rapide.
Alors, je pense que cela a été positif pour certaines personnes. La plupart sont les gens les plus riches qui ont pu s'enrichir encore plus grâce au tourisme. Mais je pense que les plus pauvres, eux, se sont appauvris. Et je pense que les Laotiens ont dû passer de l'ère du ciseau à bois à l'ère de l'informatique en quelques années. Et ça a été un grand bouleversement. Et aujourd'hui, là, on voit nettement la différence de luxe entre les gens qui ont profité de ce tourisme et les autres.
Le développement touristique a de fait entraîné des changements au sein de la composition de la population. Presque aucun autochtone ne vit plus dans le centre de Luang Prabang, lequel regroupe des hôtels, des commerces, des restaurants et des cafés. Pour Francis Engelmann, ces bouleversements étaient difficiles à anticiper.
Alors, je pense que au début, l'accord entre le gouvernement Lao et l'UNESCO était concentré, focalisé sur l'architecture, puis un petit peu la nature, les jardins, les arbres qui sont dans le site. Mais ce qui n'était pas prévu, probablement, ça aurait été trop large, et c'était pas le moment, c'était tous les problèmes, j'allais dire, de patrimoine immatériel, et les problèmes de population, les problèmes de changement dans l'habitation, dans l'habitat de la ville. Alors ça, ce sont des questions nouvelles qu'on peut reprocher à personne de ne pas avoir traitées, puisque ce n'était pas prévu au départ. Et donc, mais aujourd'hui, je pense que c'est des questions qui se posent. Évidemment, on connaît ça dans d'autres sites historiques. La valeur des terrains augmente, les gens modestes n'arrivent pas à se maintenir, et de plus en plus, on a des hôtels, des boutiques, des restaurants, et de moins en moins, des gens, j'allais dire, ordinaires, qui font la vie de la population, qui soutiennent les monastères, qui participent aux cérémonies. Donc là, il y a une préoccupation nouvelle. Les autorités en sont conscientes puisque à plusieurs reprises les autorités provinciales ont dit qu'elles allaient limiter les autorisations pour ouvrir par exemple de nouvelles guest houses. Donc pour limiter cette transformation, cet embourgeoisement, cette gentrification comme disent les Anglais, pour garder une vie à l'intérieur de ce très beau patrimoine architectural.
Y a-t-il alors ce qu'on pourrait appeler une boboïsation de Luang Prabang, la préservation d'une ville musée où des touristes raffinés viennent goûter aux beautés des architectures coloniales et bouddhiques? Peut-être, mais d'une part, ces dernières années, la grande majorité des touristes ne sont plus européens, mais thaïlandais, vietnamiens, chinois et coréens, et d'autre part, le tourisme est la seule activité économique viable pour Luang Prabang. Thank you. Le soir venu, l'une des attractions de Luang Prabang est son marché de nuit, une sorte de foire commerciale en plein air où les habitants des environs, dont beaucoup de membres des minorités ethniques, viennent vendre leurs produits. Au départ, ces montagnards vendaient des objets artisanaux qu'ils fabriquaient. Mais la demande touristique aidant, les choses ont changé peu à peu, comme l'explique Donna Lenniki du Centre des arts traditionnels et de l'ethnologie.
D'après ce que je comprends, dans le passé, les objets artisanaux que vous pouviez voir étaient plus complexes et ils étaient vraiment fabriqués pour les gens d'ici. Certains des motifs étaient plus difficiles à appréhender pour un étranger, mais les gens d'ici les comprenaient. En ce qui concerne les produits importés que vous pouvez voir maintenant au marché de nuit, c'est une conséquence du besoin de ces familles d'avoir un revenu. L'effort en temps pour coudre une étoffe qui pourrait être vendue à un prix plus élevé serait important et peut-être que le touriste ne pourrait pas immédiatement apprécier la valeur de cet objet. Je pense que la cause est en partie le besoin de ces gens d'obtenir un revenu pour leur famille.
Mais tout le monde n'a pas profité de la même façon des opportunités ouvertes par le développement touristique. Certaines minorités ethniques sont plus habiles à comprendre les lois du marché que d'autres. Par exemple, les Kamu, une ethnie qui est minoritaire dans le pays, mais majoritaire dans la région de Luang Prabang, a du mal à grimper sur le train du développement impulsé par le tourisme. Alors qu'une autre ethnie, les Hmong, parviennent généralement à mieux tirer leur épingle du jeu. C'est l'opinion d'Olivier Évrard, ethnologue pour l'Institut de recherche pour le développement.
Je pense que très certainement le tourisme va reproduire des inégalités préexistantes, voire peut-être même les amplifier. Ce qu'on observe, c'est que certaines populations sont en mesure de tirer plus facilement leur épingle du jeu parce qu'elles peuvent accéder au centre urbain avec des produits qui plaisent aux touristes. Les Laos, les tisserands de Laos sont très connus pour leur capacité à tisser la soie, etc. Les Hmong le font aussi sur la broderie. Et ce sont deux populations qui ont compris assez vite comment adapter leurs motifs traditionnels aux attentes visuelles design des Occidentaux, aidés en cela par quelques ONG qui les ont formés à produire des objets typiquement conformes à l'attente des Occidentaux, en fait. Mais ce sont aussi des populations qui bénéficiaient d'un capital économique suffisant pour pouvoir acheter des places au marché dans les centres visités par les touristes et donc pour vendre. Et donc, ce sont parfois des populations qui viennent de villages assez éloignés, mais qui ont des réseaux urbains suffisants pour leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Ce n'est pas le cas avec les Kamu. Bien souvent, ils n'ont pas ce type de réseau-là, et ils ne viendraient sans doute pas à l'idée de la plupart des Kamu de vendre leur vannerie en plus. C'est pas quelque chose. Ils ont compris récemment que c'est quelque chose avec lequel ils peuvent faire de l'argent, mais ça reste encore balbutiant.
Un peu à l'écart du centre historique, nous tombons sur un terrain de pétanque comme on en trouverait dans le sud de la France. Des Laotiens passionnés parient quelques billets et jaugent les coups de l'adversaire en sirotant une bière Lao. Ici, pas un seul touriste. Un endroit typique où, plus que n'importe où dans le centre, on peut sentir battre le pouls du peuple laotien. Ainsi, malgré la vague touristique et la marchandisation de la culture qu'elle a entraînée, il reste des endroits authentiques, lesquels témoignent que Luang Prabang n'a pas encore totalement perdu son âme. Reportage à Luang Prabang d'Arnaud Dubus, réalisation Souel Kedir.
I'm
Arnaud Dubuse, bonjour.
Bonjour.
Ces 15 dernières années, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises à Luang Prabang. Et quel changement avez-vous pu observer ?
En fait, un changement qui est assez frappant, c'est tout simplement le marché de nuit. Avant 2000, il n'existait pas. La ville était vraiment tranquille le soir, comme d'ailleurs la journée, même en haute saison. Et c'est en partie cet aspect paisible, avec bien sûr la grande beauté du site, qui séduisait les touristes, lesquels venaient à l'époque essentiellement d'Europe, particulièrement de France. Puis avec l'explosion du tourisme, un quadruplement en 20 ans, l'atmosphère de la ville a un peu changé. En haute saison le soir, le marché de nuit est devenu assez similaire à ce qu'on peut trouver dans les villes touristiques thaïlandaises, comme par exemple Chiang Mai. Il y a aussi de plus en plus d'hôtels et de guest houses, lesquels s'adressent à tout type de clientèle. Donc le côté un peu secret, intimiste de Luang Prabang a disparu au profit d'un développement touristique classique, comme on a pu le voir dans de nombreuses villes moyennes de la région, comme Siem Reap au Cambodge, Hoi An au Vietnam ou Yogyakarta en Indonésie.
Vous faites allusion dans votre reportage à une évolution de la population des touristes, plus d'Européens et d'Américains avant et plus d'Asiatiques aujourd'hui.
Oui, en fait, Luang Prabang n'est pas très loin de la frontière chinoise et toute la région nord du Laos est sous l'influence économique de la Chine. Dans certains endroits, comme à Udom Sai ou à Boten, la plupart des panneaux publicitaires et des écriteaux sont écrits en chinois. Il est donc assez logique que les Chinois représentent la plus grande partie des touristes qui se rendent à Luang Prabang. Comme le Vietnam, pour des raisons historiques et politiques, a été très influent au Laos depuis longtemps, beaucoup de Vietnamiens visitent aussi l'ancienne capitale royale. Il faut enfin ajouter les Thaïlandais, qui sont culturellement proches des Laotiens, et les Coréens. Ce que cela change, c'est que les Asiatiques s'intéressent plus aux sites naturels, par exemple aux chutes d'eau de Kwangsi, proche de Luang Prabang, qu'aux monuments historiques comme le Palais Royal. Or, le travail de l'UNESCO a porté avant tout sur la préservation de l'architecture. Les Asiatiques ont aussi tendance à faire des séjours plus courts que les Européens et à moins dépenser. Les investisseurs se sont adaptés à cette nouvelle demande en développant des hôtels et des stations de vacances à la périphérie de la ville qui visent particulièrement la clientèle chinoise.
Est-ce que l'on peut dire, Arnaud Dubuse, que l'expérience de préservation de l'UNESCO à Luang Prabang a été un modèle et qu'il devrait inspirer d'autres projets du même type dans la région ?
C'est une question compliquée. Comme on le dit dans le reportage, le site n'a pas été défiguré et cela, c'est un résultat considérable. À ce niveau-là, c'est une réussite. Mais il y a des problèmes. Il ne faut pas oublier que la corruption n'est pas absente du Laos, bien au contraire. Le Laos est un État communiste autocratique et donc cela veut dire manque de transparence, combine et directives imposées par le sommet de la hiérarchie. Donc ces problèmes existent, mais les gens n'en parlent pas et il n'est pas facile de savoir ce qui se passe derrière le rideau.
Arnaud Dubuse, merci d'avoir été avec nous. Votre grand reportage sur l'ancienne capitale royale du Laos, Luang Prabang, on peut le retrouver dans son intégralité sur notre site internet sur rfi.fr.
Dire et des nouvelles, Jean-François Cadet.